Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voulez-vous me dire quel est le verset le plus connu de la Bible ? Voilà, bien, ouvrez donc votre Bible à Jean 3,16, s'il vous plaît. Alors, c'est le verset qui est cité le plus souvent. Lorsque nous parlons du salut, lorsque nous parlons de l'œuvre de Dieu, lorsque nous parlons et nous voulons parler de son amour pour le monde, pour les hommes. Alors, Jean 3,16, Évangile de Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première chose, c'est le sentiment de Dieu à l'égard de cette création humaine. Il a aimé le monde. Il y a un mot qui le désigne aussi. Il a tellement aimé les hommes. Voilà, tellement aimé le monde. Alors quand on aime, on donne. On ne vend pas. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de transaction. On donne. La conséquence de l'amour de Dieu, c'est qu'il a donné. Dieu n'a pas réfléchi comment il pouvait finalement rentrer en contact avec les hommes, de quelle manière eh bien, les choses pouvaient se faire. Il est venu, il a donné. C'est toujours très agréable de recevoir. Or, nous nous apercevons que même quand on fait un cadeau ou lorsque l'on fait des cadeaux aux gens, il est parfois très déplaisant de se voir refuser le cadeau. Ouais. Et vous savez pourquoi les gens refusent le cadeau ? Parce qu'ils ne veulent rien devoir en retour. Or, je voudrais quand même vous préciser, c'est tout l'Évangile, Dieu n'a jamais rien demandé en retour. Ouais. Et puis, une chose qui est certaine, c'est que le refus, c'est tout simplement eh bien, de vouloir rester libre, la preuve, de s'affranchir de toute obligation. Et puis, Le troisième aspect, c'est que Dieu a donné, les hommes ont refusé, la plupart, un grand nombre d'hommes ont refusé, parce qu'ils ne croyaient pas au cadeau. Parce qu'ils disaient, mais tout ça c'est trop beau. C'est trop beau pour y croire. Ça ne doit pas être vrai. C'est inimaginable que je puisse être sauvé, partager le ciel pour l'éternité, c'est pas vrai, c'est pas possible. Alors, l'homme refuse. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et il n'a pas donné n'importe quoi, excusez-moi. Il n'a pas donné n'importe qui. Parce qu'il ne s'agissait pas d'une chose. Il ne s'agissait pas de quelque chose. Il s'agissait de quelqu'un. Parce que quand on donne quelqu'un, c'est qu'on engage la vie. On engage la vie de ce quelqu'un que l'on donne. Et figurez-vous que j'irai encore plus loin, je dirais que Dieu lui-même s'est engagé lui-même, parce que Christ est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. C'est une partie de lui-même. C'est lui-même, tout simplement. Alors, il a donné son Fils unique. Il n'y avait pas 36 sauveurs. Il n'y a pas 36 prophètes. Il n'y a pas 36 je ne sais quoi qui pouvait faire office. Il n'y en avait pas un de rechange. Il n'y avait pas un plan de rechange. C'était son unique. Et dans un but bien précis, que quiconque, c'est-à-dire tous les hommes, les juifs, les non-juifs, les païens, les bons et les méchants, les riches comme les pauvres, les blancs comme les noirs, et puis tout ce qu'il pouvait y avoir d'humanité sur la terre, ça s'appelle quiconque, c'est-à-dire chacun d'entre nous aujourd'hui, quiconque croit en lui, croit dans le don d'une personne. Alors quiconque croit, c'est-à-dire c'est l'engagement de notre tréfonds de nous-mêmes, de notre moi, je crois. Je crois, c'est quelque chose, le mot croire, c'est quelque chose qui est unique. C'est quelque chose qui, finalement, est dans la capacité de l'homme. Il veut ou il ne veut pas, tout simplement. Je veux croire, je veux m'engager à croire. Je fais confiance, parce que c'est le mot également qui pourrait se traduire, on le dit souvent, sous le vocable de la foi. Je fais foi, je fais confiance. Alors quiconque croit en lui, eh bien il échappe à quelque chose de terrible. Il échappe à la mort, il échappe à l'enfer, il échappe à la perdition, afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait quelque chose d'infiniment supérieur à tout ce que l'homme peut imaginer, du cadeau, de la grandeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur de l'amour de Dieu manifesté dans ce don, dans ce cadeau, eh bien c'est la vie éternelle, figurez-vous. Alors, cet après-midi, vous avez bien compris ce texte, j'ai essayé de le présenter de cette manière le plus simplement possible. Nous allons voir, c'est un petit peu original, mais je pense que ça peut être intéressant de prendre en considération. Nous avons là tout un message à travers Jean 3,16, un message de salut, essentiellement de salut, tiré des 3,16 du Nouveau Testament. Alors qu'est-ce que ça veut dire les 3,16 du Nouveau Testament? Si vous prenez votre Bible et que vous prenez la grande majorité des livres du Nouveau Testament, que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Jean, que ce soit Luc, le livre des Actes, le livre des Romains, l'épître aux Romains, après les épîtres des Corinthiens, ensuite vous passez par Éphésiens, par exemple, hein, je cite comme ça, Timothée, etc., et les épîtres de Jean, il y a des 3,16. Il y a, dans chaque livre, des 3,16. Jean 3,16, c'est la base, nous l'avons vu, c'est le principe du salut, il nous est montré, et nous allons voir et nous allons découvrir. Sur, tout simplement, la base de notre réflexion, elle va porter sur cette expression « car Dieu a tant aimé ». Voilà. Et nous allons voir dans tous les 3,16 du Nouveau Testament, enfin une partie, eh bien, pourquoi Dieu nous a aimés? Comment il nous a aimés? Ce qu'il a fait pour nous montrer son amour, pour nous prouver son amour. Le pourquoi, le comment il s'y est pris, le but qu'il veut atteindre. Alors nous allons voir ça. Retenez bien cette phrase qui va revenir à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, les 3,16 du Nouveau Testament. Dieu a tant aimé le monde. On va commencer par Matthieu. Matthieu, alors je ne vais pas le dire à chaque fois, hein, Matthieu 3,16, d'accord ? Matthieu 3,16, voilà. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans Matthieu 3,16 ? On va le lire. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je n'ai pas limité à Jean, à Matthieu 3,16, mais aussi la suite parce que c'est la même phrase, hein, c'est la même pensée. Dès que Jésus, au moment de son introduction dans ce monde, en tant que Messie et Sauveur, après avoir obéi à son Père Céleste, il nous est dit qu'il sortit des cieux, et voici les cieux s'ouvrir. Car Dieu a tant aimé le monde, les hommes, les cieux se sont ouverts à partir à ce moment-là. Il semblerait que la révélation du salut est venu précisément à ce moment-là. Les cieux se sont ouverts et la constatation est faite, c'est que l'Esprit de Dieu est descendu sous une forme corporelle, enfin matérielle, sur une colombe. Et là, il y a une voix qui s'est fait entendre. Je voudrais vous dire que Dieu a tant aimé pour ouvrir les cieux et confirmer au monde entier le Sauveur dont l'humanité avait besoin. Écoutez bien. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » D'accord ? Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Maintenant, nous avons un Sauveur. Depuis 2000 ans, nous avons un Sauveur. Un Sauveur qui avait été attendu par une certaine nation que l'on appelle Israël, mais maintenant les choses sont faites parce que Dieu a tant aimé. Le fondement de cette démarche où le ciel s'ouvre et qu'une voix descend du ciel en disant « C'est celui-ci, ce n'est pas un autre. » Confirmation, tout simplement au monde, de ce Sauveur que nous avons appelé, dans Jean 3,16, il a donné son Fils unique, tout simplement. On va aller un peu plus loin. On va tourner, on va laisser Marc. On va aller maintenant dans l'évangile de Luc. Et dans Luc 3,16, qu'est-ce que nous lisons? Nous voyons que les gens du temps de Jésus étaient dans l'expectative, ils se posaient des questions, et c'est Jean-Baptiste qui va répondre sur la venue du Messie, et il nous est dit, « Jean leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Et la dernière partie du verset 16, « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Dieu a tant aimé. Dieu a mis et répandu tout son amour pour cette humanité pour baptiser, écoutez bien, pour baptiser dans le symbole même, mais dans une réalité profonde, baptiser les hommes dans une vie nouvelle que l'on appelle la vie de l'Esprit. L'humanité qui était écrasée, qui était avachi dans la boue, dans la misère, dans l'obscurantisme, dans le désespoir, à travers la venue de Jésus, ce Fils unique, nous voyons que là, Dieu a parlé précédemment, mais par la bouche même de Jean-Baptiste, qui va décliner qu'il n'est pas le Messie, mais qu'il y a quelqu'un qui va venir après lui. Et ce quelqu'un, il le dit d'une manière tellement forte, il dit, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, alors il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ce que l'humanité a besoin, et voilà le pourquoi de Jean 3,16, pourquoi Dieu s'adresse à quiconque pour qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, ça veut dire la vie spirituelle, la vie pour l'éternité, naturellement. Et cette vie n'a rien à voir avec la nature charnelle, la nature humaine, de notre espèce, de notre humanité. Il faut que l'homme, eh bien, rentre dans une nouvelle dimension qu'on appelle la vie de l'Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu qui purifie par le pardon des péchés, par la confession, la repentance, et cet Esprit qui descend. Comme l'image de la colombe qui est venue, comme nous avons lu tout à l'heure. Et nous nous apercevons qu'à ce moment-là, eh bien, Dieu est venu sauver les hommes. Non pas d'une manière religieuse, non pas d'une manière qui serait finalement l'imagination, le produit de l'imagination des hommes, mais ça vient d'en haut, ça vient de Dieu, et Dieu est esprit. Et il veut finalement que les hommes qu'il appelle, eh bien, soient comme lui, c'est-à-dire dans cette dimension et nature de l'esprit. Il est venu tout simplement, et il a tant aimé pour baptiser les hommes d'une vie nouvelle, et nous l'avons lu, il vous baptisera d'esprit. La nouvelle naissance est une réalité. Et quand on regarde et on prend en considération Jean 3,16, afin qu'il ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, ça s'appelle naître de nouveau. Une renaissance à une nouvelle vie. Et on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. C'est quelque chose de magnifique. Ensuite, nous allons laisser Jean, puisque Jean 3,16, on le connaît, c'était la base de notre réflexion. On va aller dans le livre des actes maintenant des apôtres. Et dans le livre des actes des apôtres, apôtre 3,16, excusez-moi, il y a tellement l'habitude. Et là, nous découvrons encore un autre aspect de pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi il a fait ce cadeau à l'humanité. Pourquoi il a donné son Fils unique. Alors il nous est dit ceci, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Dieu a tant aimé le monde, parce qu'il l'a aimé pour le sauver. Mais dans cette humanité, dans cette prison qui est le corps humain ou l'âme humaine, l'homme a besoin de guérison. Et là, c'est un exemple qui nous est donné à travers un acte de foi qui va démontrer que ce paralytique, à un moment donné, enfin ce boiteux, eh bien, va recouvrer l'usage de ses jambes. Et dans l'explication que donnera Pierre et Jean à tous ceux qui sont surpris de voir une guérison surnaturelle, miraculeuse, se produire devant leurs yeux, il leur dira ceci, mais c'est par la foi, dans le nom de Jésus, et que son nom a raffermi, on l'a lu, C'est par la foi en lui qu'il a donné à cet homme une entière guérison en présence, finalement, de vous tous. Vous êtes témoins. Ce qui montre bien que là, nous sommes à la jonction de toutes ces prophéties de l'Ancien Testament. Ne serait-ce que Ésaïe 53, il nous est dit, c'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui puisse obtenir la guérison, la délivrance, le secours de tout le mal qui peut être en lui, et cela par le moyen de la foi dans un seul et unique nom, c'est le nom de Jésus. Ça nous est dit, hein ? Uniquement le nom de Jésus. Acte 3, 16. En prolongement de Jean 3, 16. On va tourner encore une page, plusieurs pages. Nous arrivons maintenant à ce qu'on appelle le monument théologique ou doctrinal de la Bible, c'est l'Épître aux Romains. Et dans l'Épître aux Romains, là, nous pouvons dire que Dieu a tant aimé le monde. Parce que c'est la construction du salut de l'humanité. C'est la structure, nous pourrions dire. Et dans Romains 3, 16, nous découvrons cette parole. Simplement, mais avec avant et après la même chose, la même pensée, il est dit « La destruction et le malheur sont sur leur route. » Pourquoi ? Je vais relire à partir du verset 12, pour inclure le verset 16. Il nous est dit, verset 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, ils sont tous égarés, ils sont tous pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier, leur bouche est un sépulcre ouvert, elles se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur. » Sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Voilà. Romains 3, 16, en prolongement de Jean 3, 16, Dieu a tant aimé pour arracher, c'est le mot, vous savez, arracher l'humanité de la perdition, de la corruption et du mal. Jésus est venu, il a été donné, le Fils unique de Dieu a été donné à l'humanité pour que quiconque croit dans son sacrifice expiatoire, dans la justice que Jésus a accomplie pour nous en lieu et place pour nous, eh bien, que nous pouvions, dans ce descriptif tellement terrible qui nous est présenté dans Romains, c'est Paul qui le signale, en disant, mais il n'y a pas un seul qui soit intelligent. Tous sont pervertis, tous sont pécheurs. Et Jésus a été donné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné justement parce qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Ce n'est pas les bonnes œuvres. Ce n'est pas la compensation en faisant le bien pour compenser le mal. Ça, c'est les méthodes humaines. Mais il n'y avait pas d'autre solution qui pouvait véritablement accomplir cette purification et cette délivrance du mal. Romains 3, 16. Dieu a tant aimé pour arracher l'humanité de cette perdition irrémédiable. On va aller encore un peu plus loin. Vous voyez, on progresse un petit peu dans le Nouveau Testament. On va aller dans 1 Corinthiens. Chapitre 3 et verset 16, hein, on répète toujours la même chose, et nous avons sous nos yeux cette parole. Et là, c'est réconfortant parce que c'est une bonne nouvelle de notre devenir, non, je me trompe, de ce que nous sommes déjà. En raison de ce cheminement, j'ai été guéri par le Seigneur par la foi, je suis sauvé par le Seigneur par la foi, il me réhabilite par la foi, et maintenant, il veut que je sois, écoutez bien, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Car Dieu a tant aimé le monde pour que le monde converti, racheté, devienne l'habitation de Dieu. » Le lieu où Dieu va trouver satisfaction et plaisir. Dieu ne peut trouver du plaisir dans sa créature qui est remplie de mensonges, remplie d'égoïsme, remplie de haine et de méchanceté. Dieu ne fera jamais sa demeure. C'est pas possible. C'est antinomique. Ça s'exclut l'un à l'autre, le bien, le mal, la lumière et les ténèbres. C'est pas possible. Alors Dieu, dans ce plan merveilleux, en donnant Jésus, parce qu'il a tant aimé ce monde, il nous a tant aimé les uns et les autres, il a dit maintenant, pour ceux qui croiraient en moi, ceux qui mettraient tout leur espoir en moi, eh bien, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Et si nous croyons, nous pouvons dire que nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et ça, c'est la promesse. Elle est pour nous également. Donc, 1 Corinthiens 3, 16. Toujours la même chose. pour que nous soyons donc ce temple saint. 2 Corinthiens 3:16. Alors, on tourne encore les pages. Et là, nous avons cette parole qui est véritablement une autre forme de délivrance et de libération, non pas physique comme nous l'avons vu, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Certes, c'est vrai, pour tous ceux qui croient, mais c'est tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit, qui nous encombre. Et il est dit ceci, 2 Corinthiens 3:16, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Ce sont des paroles extraordinaires, n'est-ce pas? Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Vous voyez, ça va en crescendo. L'homme est venu, Dieu est venu à travers Jésus-Christ pour nous arracher de notre matière terrestre, de notre poussière, de notre misère, de notre perdition, et il nous conduit de plus en plus haut, dans l'esprit, figurez-vous. Et dans 2 Corinthiens 3:16, pour nous dire tout simplement que tu as tant aimé, il nous a aimés pour nous ouvrir les yeux. Il nous a aimés pour nous éclairer, pour être la lumière. Nous qui, les hommes, marchons dans un monde de ténèbres. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles spirituels. Et figurez-vous, nous donner la vraie liberté. C'est ce que nous avons en condensé. Mais lorsque les cœurs se convertissent, qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsque je me tourne vers le Seigneur et que je dis, Seigneur, j'ai bien entendu ton appel et maintenant je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Ça s'appelle se convertir. De faire de Jésus non seulement mon sauveur, mais le Seigneur de mon existence, de ma vie. Alors, le voile est ôté. C'est une expérience que nous avons faite et dont tous les auditeurs de l'Évangile ou les lecteurs de la Bible sont invités à faire. Seigneur, ôte le voile de devant mes yeux. L'homme, tant qu'il demeure dans la perdition et loin de Dieu, eh bien, il voit comme dans un brouillard, j'allais dire. Il voit obscurément. Tout est flou, tout est les contours. Mais à partir du moment où vraiment nous donnons notre vie au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y avait un flash de lumière. Et là, nous nous mettons, c'est pas, ça ne vient pas de nous, mais c'est Dieu, hein, c'est le Saint-Esprit de Dieu en nous. Nous commençons à comprendre le pourquoi et le comment de la vie, d'où je viens, et là où je vais, qui je suis. Et Dieu nous apprend des leçons extraordinaires. Nous voyons le monde, nous voyons les hommes différemment. Notre caractère, finalement, eh bien, on est tout imprégné. Et là, nous pouvons dire que nous sommes vraiment changés. Les choses anciennes, comme vous connaissez la formule, eh bien, sont passées, mais nous sommes devenus des hommes nouveaux. Et écoutez, c'est extraordinaire parce qu'il nous est dit que le voile est ôté à ce moment-là. Quel bonheur et quelle merveilleuse expérience lorsque un homme ou une femme se tourne vers le Seigneur. Ouais, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix, c'est vrai. Et on le dit, parce que c'est une réalité. Et il nous est dit que là où est le Seigneur, s'il est dans mon cœur, dans ma vie, dans mon existence, puisque je suis le temple du Saint-Esprit, ou je vais devenir le temple du Saint-Esprit par la décision que je vais prendre, alors il nous est dit, mais or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. C'est là où je découvre vraiment pourquoi, ce pourquoi Dieu m'a créé, pour être un être libre. Libre de quoi ? Eh bien précisément libre du mal. Il est libre de toutes ces tentations, de toutes ces choses qui m'envahissent, vous savez, comme des vagues déferlantes qui nous prennent et qui réduisent les hommes eh bien, à des atavismes, qui les ramènent à leurs atavismes, qui les ramènent à des passions, qui les ramènent à toutes sortes de choses qui les font souffrir et par cela même font souffrir tous les autres. La liberté, la vraie liberté. Là où est le Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur. Alors car Dieu a tant aimé les hommes qu'il est venu pour leur donner la liberté. Le monde n'a jamais proclamé autant la liberté, alors que nous voyons que les gens sont complètement ligotés, ficelés, emprisonnés. Et ils sont malheureux. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est pour ça qu'il l'a fait. Dieu veut que nous soyons des êtres libres, comme lui-même, notre Créateur est libre, comme lui-même, notre Sauveur est libre. Et nous amener à rentrer, donc, dans la jouissance de cet affranchissement, de cette vraie liberté. On va un peu plus loin, si vous voulez, on va aller du côté de Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Là, c'est aussi très beau. Et il est dit ceci, afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, et je poursuis, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Voilà. Et au départ, il nous est dit, mais Paul dira, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, eh bien, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Dieu a tant aimé le monde. Il l'a fait pour une raison. Parce qu'il nous avait vus dans l'indigence, il nous avait vus dans la pauvreté morale et spirituelle. Et il nous est dit que selon la richesse de sa gloire, eh bien Dieu est venu, il nous a tant aimés pour que nous soyons des riches. Ouais. Pas forcément de la même conception que l'on appelle richesse, ici-bas, mais d'une richesse qui fait véritablement la beauté des enfants de Dieu, qui fait la beauté des chrétiens, qui fait la beauté de l'Église de Jésus-Christ. Une richesse intérieure, avec de véritables valeurs, avec de véritables fruits, tels que l'amour, on l'a lu, tels que la foi, telle que la bonté, telle que la joie, telle que la paix. Ça, c'est la richesse qu'il veut nous donner. Car Dieu nous a tant aimés. Et c'est la raison de pourquoi, de son amour. Tout simplement, Dieu a tant aimé et nous sommes passés de la liberté dont nous avons parlé il y a un instant à l'abondance pour une vie enracinée dans la confiance. C'est Jésus déjà qui disait cela dans une des paraboles que vous connaissez bien, celle du bon berger. Il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il entrera, il sortira. » C'est la liberté. Et il sera dans l'abondance. Une vie de chrétien, ce n'est pas une vie médiocre, restrictive. C'est une vie d'abondance, intérieurement, dans l'esprit, moralement. Et c'est à cela que nous sommes appelés, parce que Dieu nous a tant aimés. Et c'est par le prix qui a été payé, c'est parce qu'il a donné son Fils unique. Et moi je crois, parce que je suis quiconque et j'ai mis mon nom. Parce que quiconque croit en lui, eh bien il ne va pas périr. Il ne va pas périr dans l'indigence, il ne va pas périr dans la misère, dans le manque de tout. Mais au contraire, il va nous conduire plus haut, vers l'abondance. L'abondance de ce que nous avons ici-bas, et nous l'en remercions, c'est ce qui s'appelle l'action de grâce. Mais l'abondance de ce qui nous attend de l'autre côté, imaginez-vous. Si vous avez un appartement trop petit aujourd'hui, vous aurez un palais de l'autre côté. C'est une vue de l'esprit, hein. Mais vous savez ce que ça veut dire. Si nous sommes rétrécis dans notre corps à cause d'une maladie ou des infirmités ou d'une paralysie ou des choses comme ça, il nous est parlé dans 1 Corinthiens par l'apôtre Paul, il nous est dit que notre corps mortel sera changé en immortalité avec toute la plénitude de nos moyens. Alors pour ceux qui souffrent physiquement, pour ceux qui sont en prison moralement dans leur cœur, parce que Jésus est venu nous dire qu'il était venu libérer les captifs, hein, eh bien déjà nous pouvons jouir. Malgré toutes les infirmités, malgré toutes les vicissitudes de notre existence, malgré tout ce que le monde fait peser sur nous, même si nous nous sentons à l'étroit, eh bien le Seigneur va nous conduire dans l'abondance, dans la richesse, dans une véritable richesse. Et vous savez, je voudrais vous dire que l'intérieur est plus important que l'extérieur. C'est pas vrai? Parce qu'on met tout sur l'extérieur, les apparences, la corporalité et tout ça, mais l'intérieur est plus important. Et vous savez, un homme est un homme, une femme est une femme, enfin digne de ce nom, c'est parce que justement il est rempli à l'intérieur. Si on est vide, on n'est rien. C'est ce qui fait la grandeur. Et Dieu a tant aimé pour nous remplir, pour nous donner la liberté, pour nous donner justement cette profusion et cette abondance, pour que nous soyons enracinés dans la foi. Quiconque croit, c'est croire déjà pour le salut. Mais après, je vais continuer à croire, je vais persévérer à croire. Et quand on persévère, on finit par s'enraciner pour devenir inébranlable, pour devenir ferme et de pouvoir non seulement moi-même eh bien grandir, arriver jusqu'à maturité si vous prenez l'image d'une plante ou d'un arbre et ainsi eh bien pouvoir produire du fruit. Parce qu'un arbre qui n'a pas de racines ne va pas produire quelque chose de bon. Et Dieu veut nous amener toujours dans cette perspective. C'est une vue, une considération de Jean 3,16. Détaillée à travers ce que nous dit dans la Bible. C'est peut-être un peu mathématique ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas très, très conséquent, mais toujours est-il que ça nous donne un prolongement, une perspective. Et puis maintenant, nous arrivons à 1 Timothée 3,16. Rassurez-vous, on va finir ce soir. 1 Timothée 3,16, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ah, c'est une affirmation que nous ne nous sommes pas trompés, que notre foi placée en Jésus-Christ, parce que j'ai cru en lui, j'ai cru dans le don de ce Fils unique, à cause de cet amour dont je suis aimé de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu me répond si quelquefois je passe par des doutes? Il nous est dit et sans contredit. Le mystère de la foi, appelé ici la piété, est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé en gloire. Ça, c'est le chemin qui nous est proposé. S'il nous arrive à un moment ou à un autre de douter, de passer par les turbulences de l'existence, de traverser des tourbillons et des tempêtes, des tsunamis et tout ce que vous voudrez, eh bien moi la parole de 1 Timothée, qui est une parole fondatrice de ma foi, me rappelle que le mystère de la foi est sans contredit un grand don de Dieu. Ce qu'il y a de plus beau que Dieu ait pu donner aux hommes, parce que Dieu a tant aimé qu'il a été manifesté en chair. Dieu est descendu du ciel. C'est finalement, fait semblable à nous. Il a pris une chair dans la personne de Christ. Il a été justifié par l'Esprit. Vous savez ce que nous avons lu dans Matthieu? Il nous est dit à un moment donné, cette parole qui est descendue du ciel, par-delà la colombe, il nous est dit, mais celui-ci est fruit de mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et dans Matthieu, le même texte, il nous est dit, écoutez-le. Donc il a été manifesté par l'Esprit. Il a été vu des anges. Ça, c'est encore aussi un autre mystère. Et combien Jésus a été accompagné dans son ministère par toute cette armée céleste invisible pour les hommes, mais qui est une réalité de notre monde spirituel. Justifié, vu des anges, prêché aux nations, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas, sera condamné. Et vous savez pourquoi? Je ne vais pas vous répéter pourquoi il serait condamné. Ce n'est pas Dieu qui condamne. Et c'est l'homme, par son incrédulité, se condamne lui-même, naturellement. Prêché aux nations. C'est pour ça que l'Évangile est venu jusqu'à nous et qu'aujourd'hui, le 22 janvier ou 23 janvier, peu importe, ça n'a pas d'importance, on n'est pas un jour près. Il nous reste encore 350 et quelques, mais toujours est-il qu'une chose qui est certaine, c'est que là où véritablement cet Évangile est parvenu jusqu'à nous, et c'est ce qui fait que nous croyons. Alors il a été prêché dans le monde entier, il a été cru dans le monde, et il a été élevé en gloire, parce que notre destination c'est la gloire. C'est pas l'enfer, c'est pas cette éternité de souffrance que nous décrit la Bible succinctement, mais c'est au contraire, c'est la gloire, c'est l'élévation, c'est la majesté avec Jésus-Christ, parce qu'il est notre sauveur. C'est pourquoi Dieu nous a tant aimés, c'est pourquoi il a fait ça. C'est pourquoi il s'est tourné vers moi, il s'est tourné vers vous, et il nous appelle les uns les autres, et puis les amis qui sont là peut-être pour entendre et qui n'avaient pas pris la décision, voilà pourquoi Dieu a fait tout cela, parce qu'il vous aime. Alors vous allez me dire, mais est-ce que je suis digne de son amour? Moi qui ai fait tant de choses, vous demandez pardon pour votre vie, et vous regardez devant et plus en arrière, parce que lui il est capable de rayer tout cela et de mettre votre compte à jour, vous savez, de faire repartir les compteurs, comme nous le chantons quelquefois, tu peux repartir à zéro. Ouais. Oublier ton passé. Parce que le Seigneur veut l'oublier. Il t'invite à l'oublier. 1 Timothée 3,16. Révéler le seul sauveur dans son abaissement jusqu'à la gloire finale, parce que Dieu a tant aimé. Et je termine tout simplement, ce sera en forme de conclusion. Jean, qui a écrit dans l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et quand il écrit son épître, Jean, qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Jean 3, 16. Il nous est dit que nous avons connu l'amour. Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous avons connu l'amour. Est-ce que nous connaissons vraiment l'amour? Oui. On a entendu une parole cet après-midi dans notre temps de prière. C'est pour toi que j'ai fait ceci. C'est pourquoi j'ai souffert. C'est pourquoi je suis mort, en substance, c'était ça. C'est pour toi. Nous avons connu l'amour. Est-ce que nous voulons connaître l'amour de Dieu pour être sauvés? Est-ce que nous voulons aller plus loin dans la connaissance et la compréhension de son amour? Cet amour qui nous est dépeint dans un autre passage, la hauteur, la largeur, la profondeur et la longueur de l'amour de Dieu. Ouais. C'est cela Qui peut comprendre cela ? Eh bien, celui qui le comprend, c'est celui qui croit. C'est celui précisément qui y croit. Et la preuve, tout simplement, que Dieu a tant aimé l'amour, le monde, c'est qu'il a donné cette preuve de son immense amour, et son amour est éternel. C'est pas lui qui va lâcher. Peut-être nous le lâcherons-nous, l'abandonnerons-nous, mais lui, il ne nous lâche pas. C'est son amour. Alors, car Dieu a tant aimé le monde, et moi je fais partie du monde, de ce monde-là, eh bien, il m'offre, il me propose à réfléchir, à accepter, à répondre à son appel, parce qu'il m'a tant aimé, qu'il a donné. Et moi, je suis devant ce don. Je le refuse ou je l'accepte. Je le prends, ce don. J'ai accepté ce don. Je demande à Dieu de me donner la grâce de pouvoir l'accepter, ce don. Alors il a donné son Fils unique, Jésus. C'est lui notre Sauveur. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Et au Père, et dans son éternité, dans cette vie qui n'a plus de dimension, parce qu'elle est éternelle, elle est incommensurable, cette vie. C'est la vie au ciel, avec Jésus. La mort n'est pas, c'est une étape, c'est tout simplement une étape pour nous faire dépasser nos limites pour aller de l'autre côté. Alors il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, croit, eh bien ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Que Dieu nous donne sa grâce. Alors nous allons prier. Nous allons rentrer, eh bien, en nous-mêmes et le bénir de ce qu'il a fait tout ça pour nous. Et nous avons essayé de dévoiler le pourquoi, le comment de tout cela. Alors, Seigneur, donne-nous véritablement ton amour et remplis-nous de ton amour. Et à ce moment-là, nous commencerons à comprendre un tant soit peu le prix que tu as payé pour notre salut éternel. Que Dieu nous bénisse. On va prier, on va se recueillir quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que c'est vrai que ce verset est certainement le résumé, oh oui, on peut le dire quasi parfait, adapté, Seigneur, à la compréhension des hommes de ce que tu es venu faire sur cette terre. Et si l'on parle de Dieu entre les hommes, entre nous les hommes, alors à ce moment-là, eh bien, nous pouvons véritablement mettre au cœur ce don qui a été le fruit de ton amour. Oui, parce que nous savons que tu ne renonces jamais à appeler un homme perdu. Tu ne te résignes jamais à voir un homme, eh bien là, Seigneur, privé de l'éternité de ta présence. Et nous voulons te remercier de ce que tu as su nous donner un plan d'amour, de nous le faire comprendre, de nous le faire savoir à travers l'Évangile. Nous te remercions et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as donné une personne parfaite, juste, nous qui sommes des injustes et des imparfaits, pour que nous puissions vraiment recevoir ce cadeau dans la personne de Jésus et de croire en Jésus afin que nous ayons la vie éternelle. Oui, Seigneur, c'est un résumé, Seigneur. Et nous croyons qu'à travers toute cette venue de Christ sur la terre, de son abaissement, en passant par son baptême et la prononciation de celui qui était le seul et unique dans la capacité de nous sauver, à travers, en effet, eh bien, une vie nouvelle, la vie de l'Esprit, Seigneur, en nous. À travers également, Seigneur, eh bien là, tant de choses que nous avons partagées, en passant, Seigneur, par la conviction que nous sommes véritablement, irrémédiablement perdus, comme nous dit Paul dans les Romains. Eh bien, Seigneur, de faire de nous, Seigneur, une habitation en esprit, un temple pour Dieu. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander maintenant que ton esprit passe dans nos rangs, qu'il passe dans nos vies, et que pour ceux qui croient déjà, tu renforces notre foi. Et nous te bénissons, Seigneur, et nous t'adorons, Jésus. Puis pour nos amis qui sont là au milieu de nous, eh bien qu'ils puissent prendre la décision et de pouvoir dire, non pas en regardant les autres, c'est pour lui ou c'est pour elle, mais ce quiconque, eh bien c'est pour chacun, c'est pour moi. Oui, Seigneur, que ton Saint-Esprit convainc les cœurs, les consciences, les esprits, que c'est vraiment pour chacun d'entre nous. Alors, en effet, Seigneur, il ne reste plus qu'une chose, c'est que je m'engage tout simplement à te faire confiance. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Amen.
pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.